au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Jeudi 26 février, j'espère que vous avez passé une belle journée. À l'émission aujourd'hui, selon Palace Data, Christine Fréchette serait en nette avance sur Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ. On va avoir l'occasion d'en parler avec Jacques Plante. La docteure Lynn Couture sera avec nous, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides de la Naudière. Elle revient sur les fameuses primes. André Saint-Martin, qui est copropriétaire du monastère des Moniales dominicaines à Berthierville, sera avec nous. Ils ont fait la une là dans le Journal de Montréal de ce matin là avec l'histoire du monastère des Moniales. Et puis, pour débuter, c'était une vérité de la palisse. Nathalie Sinclair Desgagnés, qui tente de regagner son siège de députée fédérale dans Terrebonne, qui a été perdue, il faut le rappeler, par une seule voix au mois d'avril dernier. Et vous le savez, la Cour suprême a invalidé l'élection de la libérale Tatiana Auguste en raison d'une erreur de code postal sur l'enveloppe de retour d'une électrice bloquiste. Il y a eu combien d'erreurs comme ça, on ne sait pas trop. Et François Morin s'est rendu à Terrebonne en fin d'avant-midi pour assister au point de presse conjoint du chef bloquiste Yves-François Blanchet et de Nathalie Sinclair Desgagnés. Comme les autres journalistes qui ont demandé des entrevues individuelles, François a eu droit de poser seulement deux questions à chacun, c'est-à-dire à Yves-François Blanchet et Nathalie Sinclair Desgagnés.
M. Blanchet, dans un premier temps, que c'est une première, principalement au Canada, d'avoir fait renverser le résultat d'une élection.
En fait, on était même dans la catégorie surprise. On espérait, on pensait que les règles de droit, Nathalie en particulier, pensait que les règles de droit étaient de son côté, mais on se lève pas le matin dans notre gang pour s'en remettre à la Cour suprême. On a toujours un petit... c'était quand même, dans une bonne mesure, une bonne surprise, qui nous permet de faire prévaloir ce que sont les intentions réelles, voyons, voir. Après un an, d'ailleurs, de gouvernement de M. Carney, comment peut-on le mieux possible représenter les intérêts des gens de Terrebonne par quelqu'un qui est capable de prendre les dossiers à bras-le-corps?
Vous l'avez mentionné tantôt, vous êtes d'avis que la dernière élection a été faite sous le signe de la peur, dans le sens qu'il y a un voisin du Sud qui est pas très agréable et qu'on s'en est remis au Parti libéral ou au chef Mike Carney.
C'est probablement beaucoup le cas. Les gens excluaient d'emblée Pierre Poilievre. Et dans les conséquences, ou dans la foulée de ça, à l'échelle canadienne, il y a eu quand même pas mal un élan. Maintenant, on est un an plus tard. La crise qui devait absolument sous... la menace de catastrophe, la crise qui devait se résorber dans les semaines suivant la dernière élection, mais elle ne s'est pas du tout résorbée. On est encore là pour en parler et les intérêts du Québec n'ont pas été portés ou représentés ou même compris par le gouvernement libéral. Voici une extraordinaire occasion non seulement de faire valoir les intérêts du Québec, mais de les rappeler à l'attention du premier ministre.
Alors, Mme Sinclair Desgagnés, on reprend donc le combat. De toute façon, on s'en était un petit peu parlé, là, que c'était déjà presque acquis. Est-ce que le défi est grand quand même?
Le défi est toujours grand. On prend jamais rien pour acquis. Les Terreboniens et Terreboniennes ont une voix qui compte et on le sait avec le jugement de la Cour suprême, chaque voix compte. Donc j'espère qu'ils vont choisir une députée qui va représenter avec force et rigueur leurs intérêts à Ottawa plutôt que l'inverse.
Et dans votre élection tantôt, vous avez fait mention justement qu'il y avait quand même des enjeux, oui, nationaux, mais également locaux. Là, il y a quand même des gros dossiers, là, notamment le fameux TGV.
Absolument. Ça, c'est un enjeu qui est très important et qui me motive beaucoup à continuer de représenter les Terreboniens et les Terreboniennes. On se rappelle des expropriations de Mirabel ou de Forion qui ont été désastreuses. Pour éviter que ça se reproduise et que ça se produise ici à Terrebonne, il va falloir quelqu'un qui sait se battre, qui n'a pas peur de se battre, qui va demander haut et fort des consultations publique et si expropriation il y a, que ce soit fait de manière juste et équitable. Et ça va être important d'avoir quelqu'un qui va se battre pour ça.
L'ex-députée de la circonscription de Terrebonne, Nathalie Sinclair Desgagnés, qui sera dans les rangs du Bloc québécois pour la prochaine campagne électorale, c'est-à-dire pour cette élection partielle qui s'en vient dans la circonscription de Terrebonne et du côté libéral. Rappelons que la députée qui a été tassée Tatiana Auguste reprendra aussi l'Iran au Parti libéral. Il est 16h10. On revient dans un moment sur la saga du monastère des Moniales dominicaines à Berthierville avec André Saint-Martin. Il est copropriétaire du monastère.
Cet hiver, vivez pleinement le grand air à la pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie. Découvrez le village de pêche sur glace avec 25 cabanes chauffées et aménagées pour votre confort. Amusez-vous en famille avec les glissades, la mini-ferme et partez à l'aventure sur le sentier de raquettes. Et après cette journée bien remplie, réchauffez-vous autour d'un bon repas dans le restaurant convivial où ambiance chaleureuse vous attend. La pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie, c'est aussi votre relais motoneige et grande nouveauté cette année, relais pour Quad, la pourvoirie Auberge La Barrière, une belle façon de vivre l'hiver. Et pour être certain de ne rien manquer, suivez La Barrière sur Facebook.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gautier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409. La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficace pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquée sur mesure, elle s'adapte à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Lanaudière PM, Société.
Il est 16h12, la saga du monastère des Moniales dominicaines à Berthierville se poursuit. Les propriétaires en peuvent plus d'en découdre avec les fonctionnaires du ministère de la Culture qui leur renvoient des avis d'infraction pour qu'ils remettent aux normes ce bâtiment qui, faut dire, ne cesse de se dégrader et dont personne ne veut, même pas pour une pièce. Et François Morin en a discuté avec un des copropriétaires, André Saint-Martin.
Good. Alors, André Saint-Martin, donc, le dossier du monastère des Moniales du côté de Berthierville refait encore l'actualité. Ce qu'on constate, parce qu'on s'était parlé au début de l'hiver, ce qu'on constate, c'est que finalement, ça n'a pas progressé beaucoup, là.
Non, ça n'a pas progressé. Nous, comme tels, on veut se débarrasser de ce cancer-là, là. Personne n'en veut. C'est pour ça que on a publiquement sorti. On l'a offert au gouvernement pour 1$. Il a refusé. On l'a mis dans les journaux. Personne n'en veut. C'est assez les dépenses, là. Tu sais, c'est les deniers publics que le gouvernement dépense aussi là, pour contrer contre nous. Là.
Puis il vous force également à faire des travaux dont vous n'avez pas nécessairement les moyens de réaliser.
Bien, on n'a pas les moyens. Puis eux nous ont forcé à dépenser 1 million $ pour barricader, disant avec des experts que tout était sécuritaire, puis il n'y aurait plus de problème, puis tout a été défait. Les gens cambriolent, les gens rentrent en dedans, ils coupent les clôtures. C'est chaque jour, chaque semaine, des interventions policières, ça n'arrête pas.
Et là, ce qu'on comprend aussi, c'est que compte tenu de l'état du bâtiment, il n'y a pas grand monde qui veut rentrer à l'intérieur.
Ben non, parce qu'il y a de la contamination à l'intérieur, fait qu'il faut que les gens se protègent, ça prend des gens équipés. Ça prend le masque, ça prend les chaussettes, ça prend l'habit. C'est pour être déguisé pour aller à l'intérieur. C'est la sécurité des gens.
Là, on sait qu'il y a un processus qui est en cours. On s'en était parlé. On a des documents en main. C'est le tribunal administratif qui a ça, justement. Là, on connaît pas encore la date d'audience. Mais c'est parce que ce qu'on veut, c'est clairement un déclassement pour qu'on puisse réaliser le projet.
Ben, nous, ce qu'on veut, que ce soit un déclassement, que ce soit une démolition. On n'a rien contre le patrimoine, sauf que là, c'est un endroit qui n'est pas sécuritaire. Autant les pompiers ne peuvent pas intervenir. C'est extrêmement dangereux, puis c'est question de sécurité publique. Puis on n'est pas assuré, puis c'est pas assurable. Donc, en quelque part, il faut que quelqu'un assume ses décisions.
Puis, faut-il le rappeler, parce que c'est peut-être pas connu de la population en général, c'est quand les Moniales vous ont vendu tout le site, incluant le bâtiment, oui, ça leur faisait un pincement au cœur, mais ils y avaient donné, et je vais me permettre le jeu de mots, leur bénédiction là pour démolir.
Oui, parce que les sœurs ont commencé en 2011-2012 à essayer de vouloir le vendre, à essayer de le céder à quelqu'un. La ville n'en voulait pas. Il n'y a personne qui en voulait. Et les sœurs sont venues en 2018 frapper à nos portes pour dire, écoutez, nous, on est prêts avec ce bâtiment-là. On le sait que vous, si vous faites un développement, parce que le développement en arrière, on commençait dans les semaines à suivre, parce que l'acquisition avait été faite en 2017. Les permis avaient été octroyés par la ville. Donc, son représentant était la MRC. Le changement de zonage avait été fait d'institutionnel à résidentiel et le projet partait. Les sœurs ont dit, écoutez, on vous demande une faveur, prenez-les, puis on va vous vendre avec une maison à côté. Il n'y avait rien à faire. Le bâtiment, le chauffage ne marchait plus. Les sœurs avaient eu un problème. L'eau avait gelé. Fait qu'il était vis-à-vis un bâtiment qui était comme vistus. Et c'est à cette raison que les sœurs ont demandé, s'il vous plaît, on le sait que vous allez le démolir. La ville le savait, tout le monde le savait, les permis ont été donnés en conséquence, personne qui en voulait. Puis ça aurait coûté des 25-30 millions, les études ont été faites pour essayer de rénover, ça coûtait plus cher rénover que d'en faire un nœud. Puis nous, c'était pas notre objectif de vouloir ça, fait que j'ai dit aux soeurs, nous, on n'est pas intéressés. Et on a fait des vérifications pour essayer de donner les coûts. Et à l'époque, c'était comme 250 000 $ enlever l'amiante et 1 250 000 pour démolir le bâtiment. Ça, c'était connu de tout le monde.
À ce stade-ci, est-ce qu'il y a d'autres procédures qui sont possibles? On est obligé d'attendre là, les audiences du tribunal administratif?
Et là, c'est qu'on essaie de... C'est pour ça que je vous dis tantôt, il n'y a personne qui en veut. Puis nous, ce qu'on a expliqué au gouvernement, puis ce qu'on explique depuis le début, c'est une expropriation déguisée. C'est ce qui arrive. Puis le gouvernement nous force à faire une démonstration pour montrer que c'est pas une expropriation déguisée, mais avec personne n'en veut. C'était dans les journaux. Le gouvernement n'en veut pas. Le gouvernement a cherché pendant 7 ans. Ça fait 7 ans que ça dure, cette saga. Fait qu'il faut que ça arrête. Puis le gouvernement, si nous, on dépense des millions pour se battre, le gouvernement en dépense autant. Il pourrait le mettre dans les écoles, il pourrait le mettre dans les hôpitaux, il pourrait le mettre dans la ville, il pourrait le mettre à l'aréna. C'est insensé de dépenser comme ça.
En terminant, je vais vous poser une question un peu directe, là, mais quand il y a des entreprises privées qui sont obligées de dépenser des sommes considérables comme ça, est-ce que ça met justement un peu en péril là, vos entreprises?
Ben, c'est justement, cet argent-là, on pourrait le mettre ailleurs. Il y a personne. Moi, si on m'aurait dit que c'était patrimonial ou si on m'aurait dit qu'il n'y avait pas de possibilité de démolition, jamais on n'aurait acheté ça. Jamais. Sauf que là, c'est que ces millions-là, on est là. On les a remis ailleurs. Tandis que là, ça n'a rien avancé. Personne. On essaie de trouver un responsable au gouvernement. On ne peut pas discuter avec personne. Il n'y a pas de décideur.
Celui qu'on vient d'entendre, c'est André Saint-Martin. Il est copropriétaire du monastère des Moniales dominicaines à Berthierville. Il est pris, comme il le dit, avec un cancer. Pas de réponse du côté du ministère de la Culture. On est pris avec un immeuble patrimonial qui a été classé patrimoine, mais dont on voudrait on pourrait peut-être le déclasser, sacrer ça à terre, puis faire autre chose avec le terrain, ça va de soi. L'immeuble, il est absolument fini, là. Et lorsqu'on parle de patrimoine, moi, je vous dis qu'on ne devrait pas classer édifice patrimonial à un édifice qui a moins de 100 ans, et c'est le cas de ce monastère-là. Bon, voilà. Il est 16h19 ailleurs dans l'actualité. Il y a le ministre des Finances, Éric Girard, qui persiste et signe, là, la menace référendaire a un impact sur les emprunts du Québec. Et ses propos ont soulevé la colère autant des souverainistes que des fédéralistes. Voici un reportage de Louis Lacroix.
Hier, Éric Girard affirmait que le spectre d'un référendum péquiste inquiétait les marchés financiers.
Ça coûte plus cher à emprunter en raison de la perspective d'un référendum dans un premier mandat.
Il avançait le chiffre de 100 millions sur 5 ans, mais le critique libéral Frédéric Beauchemin croit que c'est bien plus que ça, puisqu'il faut appliquer le calcul à l'ensemble de la dette.
C'est 600 millions de plus, la menace référendaire. C'est ça que ça coûte.
Ce ne serait donc pas 5 points d'intérêt, mais 15.
Il y a 5 là-dedans que c'est la menace référendaire, puis il y en a 10 que c'est la mauvaise gestion caquiste.
Mais le ministre Girard persiste dans ses affirmations.
Moi, hier, j'ai dit 3 choses. Je les maintiens. Elles sont factuelles.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Il y a des Québécois qui dépensent des milliers de dollars pour obtenir des soins en santé au privé, faute d'avoir accès à des services dans le système public. C'est ce qu'a dénoncé le député de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard, lors de la période de questions aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a reconnu que trop de patients doivent se tourner vers le privé.
Ça n'a aucun sens payer et s'endetter pour rester en vie au Québec en 2026. Les Québécois paient deux fois. Ils paient toute leur vie avec leurs impôts, puis ils paient encore avec la carte de crédit quand vient le temps d'avoir des soins de santé.
Il y a trop de Québécois qui attendent trop longtemps encore en chirurgie. C'est sur le ton, c'est là la différence. Et il faut quand même être fier de ce qu'on est en train de faire avec notre système de santé au Québec.
Et par ailleurs, Québec solidaire qui qualifie de mauvais le bilan de la CAQ en éducation. Ruba Gazal qui a rappelé que l'éducation était pourtant la raison du retour de François Legault en politique à l'origine. Le premier ministre a tenu à défendre ses réalisations et encouragé donc par les troupes caquistes.
100 nouvelles écoles, 200 projets d'agrandissement qui sont finis, faits, 150 autres projets qui sont en cours. C'est du jamais vu. Ça, c'est historique.
Hydro-Québec rapporte un bénéfice net de 2,9 milliards en 2025. Il s'agit d'une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente, mais qui comprend la vente de certains actifs sans laquelle le bénéfice net aurait presque exactement le même que celui de 2024. Et en présentant les résultats 2025 de la Société d'État, sa PDG Claudine Bouchard a aussi parlé d'investissements majeurs et de diversification des sources d'électricité, notamment l'énergie éolienne et puis l'énergie solaire. Et dans le cas du solaire, Hydro-Québec augmente la quantité d'énergie qui sera permis de produire pour soi-même et l'arrivée prochaine d'une aide financière pour soutenir cette production d'énergie solaire.
Pour soutenir cette initiative, nous rehaussons la capacité d'autoproduction permise qui passe de 50 kW à 1 MW, ouvrant ainsi la voie à des projets résidentiels et commerciaux de plus grande envergure. Dans cette perspective, un programme d'aide financière pour appuyer l'autoproduction solaire, résidentielle et commerciale sera annoncé au cours des prochains mois.
Et à la Chambre des communes, Ottawa, donc le Bloc québécois qui persiste et signe le projet de loi C-15 sur la mise en œuvre du dernier budget qui brime, selon lui, les droits des citoyens. Et c'est qu'il prévoit la mise en place d'un processus d'accélération des grands projets nationaux permettant qu'on passe outre certaines lois, notamment en environnement. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, questionne donc l'empressement d'Ottawa à permettre la réalisation du projet de TGV.
Comment on peut retirer l'obligation d'études d'impact sur les milieux? Moi, je pense pas qu'il y a des bonnes raisons. Il n'est pas si urgent que ça, là. Premièrement, un TGV en Amérique du Nord, on est déjà en retard, là. Fait que c'est pas comme si on voulait être en même temps que tout le monde, là. Ça prendra 5 ans de plus, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ça prendra 2 ans de plus, ça prendra 3 ans de plus, ça prendra 6 mois de plus, tout dépendant de ce qui se passe. Mais je pense qu'il est important de préserver les droits de nos citoyens.
Sur la scène culturelle, une très bonne nouvelle pour Théodore Pellerin, qui a remporté un César en France dans la catégorie du meilleur espoir masculin. C'est un acteur québécois qui est âgé de 28 ans. Il a notamment été encensé pour son travail dans le film Nino, dans lequel il tient le rôle principal, et la 51e cérémonie se déroule présentement à Paris. A aussi sacré le film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson comme le meilleur film étranger. Je me demande pourquoi on fait ça un jeudi soir, la cérémonie des Césars en France. Ça devrait plutôt être le week-end, là, mais en tout cas, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, l'acteur québécois, je le rappelle, Théodore Pellerin, de 28 ans, qui a remporté le César du meilleur espoir masculin. Et lorsque un acteur est couronné soit meilleur espoir masculin ou meilleur espoir féminin, ben généralement, sa carrière prend tout un an vol là, du côté de la France. Et puis finalement, scène internationale, le témoignage d'Hillary Clinton devant une commission d'enquête sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein a repris cet après-midi après avoir été brièvement interrompu en raison de la fuite d'une photo à l'intérieur de la session là, qui se déroule à huis clos. Et dans sa déclaration d'ouverture, l'ancienne secrétaire d'État a accusé les républicains d'être partisans et leur a demandé de convier le président Donald Trump à témoigner. Hillary Clinton, qui dit n'avoir aucune information sur les crimes d'Epstein, et elle se rappelle pas l'avoir rencontré. L'ancien président américain Bill Clinton, quant à lui, doit témoigner demain. Il a déjà déclaré avoir voyagé dans l'avion de Jeffrey Epstein, mais nie avoir eu connaissance de ses crimes. Voilà donc, il est 16h25.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, un petit peu plus dense à partir du tricentenaire et ce jusqu'à l'approche du pont d'étagement du CN. Là. Mais quand même, on roule encore à une bonne vitesse à ce que je peux voir. Traversée facile sur Charles de Gaulle. Secteur Rive-Nord, Repentigny, le 40 Est, ça se passe très bien en ce moment. Pont-le-Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, Laval, c'est un petit peu dense. Secteur de la Jonction avec la 440, là, sinon ça va quand même assez bien. Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, on roule sans problème. Pont-Sophie-Masson, facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction ouest, on circule librement direction ouest. C'est un peu lent à l'approche de la montée des pionniers pour la 40. Dans un moment, l'actualité avec Pierre Jubinville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, L'Expert Dépanneur, à Notre-Dame-de-Lourdes Dépanneur Gabi, Les Délices de Lourdes, à Sainte-Élisabeth Dépanneur chez Napol, à Saint-Félix-de-Valois Dépanneur Estelle, Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, Dépanneur Proxy Extra et Marché IGA Rainville, à Saint-Jean-de-Mata Supermarché Métro, L'Expert Dépanneur, Marché Express Ultramar, Dépanneur du Lac-Noir et à Saint-Damien, Marché Métro Imerie, Dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
L'actualité de ce jeudi 26 février en manchette. Un match revanche dans Terrebonne. François Legault en a assez de l'attitude des médecins spécialistes. Et dossier du monastère des Moniales, les propriétaires à bout de souffle. Tout d'abord, Pierre Jubinville, le Bloc québécois là, qui va tenter de ravir la circonscription de Terrebonne.
Et c'est sans surprise, Claude, que le Bloc confirme la candidature de son ex-députée, Nathalie Sinclair-Dégagné, qui a été défaite par une seule voix en avril. La Cour suprême, on le sait, a annulé l'élection il y a 2 semaines de la libérale Tatiana Auguste en raison d'une erreur de code postal, d'une enveloppe retour du bulletin de vote d'une électrice. On écoute François Morin.
Selon le chef bloquiste Yves-François Blanchet, le vote libéral a été généré par la conviction que Mark Carney pouvait faire face à Donald Trump.
La réalité, c'est que les enjeux tarifaires n'ont jamais été réglés et qu'ils se sont empirés.
La campagne force maintenant la libérale Tatiana Auguste à livrer un bilan.
Le comparer au bilan pour les années qui ont précédé de Nathalie Sinclair-Desgagnés.
Nathalie Sinclair-Desgagnés, qui tente de reprendre son siège, affirme qu'il y a un enjeu, celui du TGV, qui passera éventuellement sur le territoire.
Les Tarboniens et Tarboniennes vont devoir se poser une question. Est-ce qu'ils vont vouloir une voix du gouvernement qui va leur dire « c'est pas grave les expropriations » ou au contraire, ils vont vouloir d'une voix forte qui va se battre pour avoir des consultations publiques?
François Morin, CFNG Nouvelles, Terrebonne.
Maintenant, santé, les médecins spécialistes encore en moyen de pression.
Et encore en chicane avec le gouvernement, ils vont cesser d'utiliser la plateforme de rendez-vous, le CRDS, tant qu'il n'y aura pas d'entente. Ils affirment que le gouvernement Legault est de mauvaise foi dans la négociation. On écoute Louis Lacroix.
Selon le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, Québec est intransigeant à la table de négociation.
Notre lecture, c'est que le gouvernement négocie en matamor.
Et selon lui, le problème est en haut.
Est-ce qu'il y a de l'orgueil mal placé de la part du premier ministre? Parce qu'il a réglé à peu près avec tout le monde.
Ce matin, François Legault a martelé que l'offre du gouvernement est largement suffisante.
On leur offre une augmentation de 11 %. Ça donne 600 000 $ par année.
Faux, dit Vincent Oliva, si on enlève les frais administratifs et professionnels, la hausse réelle est bien moindre.
Ce que le gouvernement nous propose, c'est 1,2 % d'augmentation sur 5 ans.
Et pour forcer la main au gouvernement, les spécialistes vont cesser d'utiliser dès le 16 mars la plateforme de rendez-vous CRDS.
Le CRDS ne fonctionne pas.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
On reste dans le domaine des médecins puisque on a beaucoup parlé depuis hier de primes aux médecins. Là, on remet les pendules à l'heure.
Oui, c'est l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides de la Naudière qui tient à porter un autre son de cloche au sujet des informations du devoir selon lesquelles les médecins peuvent toucher 3 primes pour des patients qu'ils ne verront jamais. Le devoir a révélé que dans des groupes de médecine de famille, des médecins exigent que des patients soient inscrits à leur nom, mais il délègue ensuite tous les suivis à des infirmières praticiennes spécialisées. On écoute la présidente de la MOL, la Dr Lynn Couture.
Quand on parle du guichet d'accès à la première ligne, là, les fameuses plages GAP, par définition, il faut que dans cette plage-là, le patient soit vu par un médecin. Ce que j'ai compris sur le terrain, c'est qu'il y a certaines cliniques qui identifient des plages de 100 rendez-vous qui, elles, peuvent être faites par des IPS, puis qu'ils identifient quand même avec le même mot. J'ouvre la porte à « est-ce que ça serait ça, la confusion? » Mais pour ces plages-là, de 100 rendez-vous, là, il n'y a aucune bonification pour le médecin. Là. Zéro open bar.
Vous avez probablement vu la une du Journal de Montréal de ce matin où on retrouvait une photo du monastère des Moniales. Les propriétaires sont à bout de ressources, là, Pierre.
Oui, Jean-Claude Payet et André Saint-Martin, ils vont d'une nouvelle sortie pour dénoncer la position du gouvernement du Québec. Ils souhaitent l'annulation du classement du bâtiment et du site annoncé en 2019 par l'ancienne ministre de la Culture, Nathalie Roy, comme biens patrimoniaux, ce qui empêche toute intervention de démolition et de changement de vocation. Le projet des propriétaires était de raser carrément le bâtiment et d'aménager les terrains pour créer un projet résidentiel. Le gouvernement leur a plutôt imposé de réaliser des travaux coûteux pour maintenir en état et sécuriser le bâtiment dont personne ne veut. On écoute André Saint-Martin.
Ben, c'est justement, cet argent-là, on pourrait le mettre ailleurs, là. Il n'y a personne. Moi, si on m'aurait dit que c'était patrimonial ou si on m'aurait dit qu'il n'y avait pas de possibilité de démolition, jamais on aurait acheté ça. Jamais. Sauf que là, c'est que ces millions-là, on est là, on les a remis ailleurs. Tandis que là, ça n'a rien avancé. Puis personne. On essaie de trouver un responsable au gouvernement. On ne peut pas discuter avec personne. Il n'y a pas de décideur.
Bon, maintenant, les nouvelles règles sur la laïcité et le port du voile, Pierre.
Oui, plusieurs écoles pourraient perdre des employés avec ces nouvelles règles. Dans un seul centre de service scolaire, une douzaine de femmes ont dû quitter après avoir refusé de retirer leur voile.
Le voile pour une femme musulmane, c'est pas un objet. C'est mon identité, c'est mon dignité, là.
Mariem Gardougui se sent incapable d'enlever son voile, mais elle dit avoir offert de porter une tuque ou un turban à l'école.
Malgré cet effort de compromis, le refus catégorique.
Les femmes ont été embauchées après le dépôt du projet de loi, ce qui les exclut de la clause de droits acquis. Son ancienne collègue, Tamir Hakima, estime donc qu'on se retrouve non pas avec la discrimination homme-femme, mais bien entre femmes d'une même religion.
Mais entre même sexe, femme-femme, oui, cette égalité.
Certains enfants se retrouvent donc avec un changement d'éducatrice ou de surveillante. La porte-parole syndicale, Annie Charland, brandit même le possible manque de personnel.
En bout de ligne, c'est les enfants qui sont pénalisés et les parents qui sont pénalisés aussi là-dedans.
Au Centre des services scolaires d'Émilie, on affirme qu'il n'y a eu aucun bris de service, pendant qu'à Québec, à l'Assemblée nationale, chaque parti reste sur ses positions. Annie Guillemette, Cogeco Nouvelle, Montréal.
Et on termine, Pierre, en parlant d'Hydro-Québec, de bons bénéfices pour 2025.
Oui, un bénéfice net de 2,9 milliards l'an dernier. Il s'agit d'une hausse de 9 % mais qui comprend aussi la vente de certains actifs sans laquelle le bénéfice aurait été presque exactement le même qu'en 2024. La présidente, directrice générale d'Hydro, Claudine Bouchard, estime que la société d'État a répondu aux attentes.
En 2025, Hydro-Québec a livré. Livré pour les Québécoises et les Québécois, avec une performance financière solide et un bénéfice net en hausse de 9 % par rapport à 2024. Livré pour l'économie du Québec, avec une contribution exceptionnelle au PIB de plus de 26 milliards de dollars.
Et il débute à l'instant son long week-end. Bonne fin de semaine, Pierre.
Merci beaucoup. Ça me gêne.
Il est 16h36.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. Santé.
On en parlait brièvement dans le bulletin d'actualité. L'Association des médecins omnipraticiens Laurentides Lanaudière qui tient à porter là un autre son de cloche au sujet des informations du Devoir d'hier selon lesquelles les médecins peuvent toucher 3 primes pour des patients qu'ils ne verront même pas. Selon la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides Lanaudière, Lynn Couture, là, à qui François Morin a parlé, il y a des nuances et des précisions à apporter dans le dossier de la rémunération des médecins.
Vous avez bien raison, c'est pas tout à fait du tout la réalité. En fait, quand on parle du guichet d'accès à la première ligne, là, les fameuses plages GAP, par définition, il faut que dans cette plage-là, le patient soit vu par un médecin. Sinon, il perd tout. Alors, il y a rien là. Là, par contre, je vais apporter une nuance. Ce que j'ai compris sur le terrain, c'est qu'il y a certaines cliniques qui identifient des plages de 100 rendez-vous qui, elles, peuvent être faites par des IPS, puis qui les identifient quand même avec le même mot. Alors, j'ouvre la porte à est-ce que ça serait ça, la confusion? Mais pour ces plages-là de 100 rendez-vous, là, il n'y a aucune bonification pour le médecin. Là. Soyons clairs. Zéro open bar.
C'est assez mal perçu dans la population. Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui va se faire dans les cliniques? Est-ce que vos membres vont s'adresser là, à leurs patients pour leur expliquer ce qui se passe?
Ben écoutez, vous savez déjà, nos médecins, ce qu'ils ont à faire de plus important, c'est de prendre en charge, donner des soins, des services à la population. On a peu de temps, les patients ont beaucoup de problèmes, alors... Est-ce que les gens vont l'expliquer peut-être, mais je suis pas sûre que la majorité des médecins vont prendre le temps de l'expliquer. Alors, c'est pour ça que je suis contente que vous preniez la peine aujourd'hui de qu'on puisse en parler ensemble. Puis, tu sais, rappelons-nous, hein, le principe du GAP, s'il y avait pas 2000 médecins de famille de moins, si on avait assez de médecins de famille pour tout le monde, il y en aurait pas. Il y en a un GAP pour pouvoir donner plus de services. Pour qu'on soit capable de dire, OK, ce patient-là, puis idéalement, ce patient-là, s'il peut être vu par un physio, donc il soit envoyé direct au physio, qu'il ne passe pas par le médecin. Donc ça, les plages GAP médicales sont vues par des médecins. Est-ce qu'il y a une bonification? Est-ce qu'il y a des incitatifs pour ça? Certainement, parce qu'il manque de médecins de famille. Et l'objectif qu'on a au total, c'est que le GAP, quand on voit un patient, si ce patient-là, je prends l'exemple du diabétique, c'est un exemple facile, je le vois... Bon, il est à risque, je fais son bilan, tout ça. Je peux le rappeler quand j'ai le bilan, de dire, voici, vous, effectivement, vous êtes diabétique. Vous allez voir mon infirmière clinicienne pour la suite, elle va vous expliquer, ou ma nutritionniste, ou mon pharmacien. Ben oui, on va le faire, ça. Ça, ça fait partie de ce qu'on fait avec nos patients qui sont en attribution collective, donc les patients qui viennent du GAP à notre clinique. Ça, on fait ça. Alors, et ça, pour la suite des événements, donc vous comprendrez que ça prend du temps. Et c'est pour ça que ça prend des incitatifs financiers, parce que pendant que mon infirmière voit ça, elle ne voit pas d'autre chose. Alors, il faut qu'on soit capable d'engager plus de monde pour donner plus de services. Encore une fois, si on avait assez de médecins pour tout le monde, on serait pas en train d'essayer d'être aussi pertinent, performant, tout ça. Remarquez que toujours bien d'essayer d'être pertinent, performant. Puis ultimement, on s'en va à la capitation là prochainement. Alors c'est pour ça qu'il faut apprendre à bien travailler ensemble en interdisciplinarité.
Bon, ben justement, la ministre a été interrogée hier à la période des questions à l'Assemblée nationale. Elle a indiqué, et là, ça vient encore mêler davantage la compréhension de la population, c'est qu'on parle d'une entente peut-être, là, d'une lettre d'entente qui daterait d'une dizaine d'années et qu'on est en train de faire le ménage dans les lettres d'entente avec les médecins.
Ah oui, ben écoutez, je suis pas sûre à quelle lettre d'entente particulièrement vous faites référence. Mais est-ce qu'on est en train, effectivement, de tout remettre sur la table, puis de tout regarder, comment est-ce qu'on peut rebrasser toutes ces cartes-là pour simplifier la facturation? Puis ça, le gouvernement, la population, puis surtout les médecins seraient bien contents que ça soit moins compliqué, la facturation, on va se le dire. Donc, ce qu'on veut, c'est simplifier, améliorer le service, qu'il y ait moins de paperasse. On est toutes là, puis là-dessus, on est 100% d'accord avec la ministre. Il faut trouver une façon de bien faire les choses pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Alors, ce qu'on est en train de simplifier, oui, on est en train de regarder comment on peut faire mieux, différemment.
En terminant, juste parce que vous venez d'en faire mention, et pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être pas évident, qu'est-ce que c'est que la capitation?
Oui, la capitation. Alors, la capitation, c'est le fait d'être rémunéré en fonction du nombre de patients qu'on a à sa charge. Donc, ça, évidemment, il y a toujours, et c'est pour ça que c'est toujours compliqué la facturation, c'est qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est que le patient qui a besoin, qui vient à la clinique et que son service peut être rendu par le physiothérapeute, bien qu'il voit le physiothérapeute, son service peut être rendu par l'infirmière ou nutritionniste ou pharmacien de la clinique, mais que ça le soit, et qu'il voit le médecin lorsque c'est requis. Mais derrière tout ça, le médecin est toujours présent et avisé, même s'il a vu le physio, même s'il a vu l'infirmière. Ultimement, le médecin reste responsable de ce cas-là, qui, lorsque ça ne fonctionne pas avec les autres intervenants, évidemment, prend le lead. Évidemment, ce qu'on vise, c'est de s'assurer qu'il y ait que ça soit bien équilibré et que le patient puisse voir le bon professionnel au bon moment. Ça reste l'objectif et c'est ça l'objectif de la capitation.
Bon, ben voilà, c'était Lynn Couture, la présidente de ce qu'on appelle la MOL, c'est-à-dire l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière. Il est 16h42, Jacques Plante dans un instant.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Cet hiver, vivez pleinement le grand air à la pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie. Découvrez le village de pêche sur glace avec 25 cabanes chauffées et aménagées pour votre confort. Amusez-vous en famille avec les glissades, la mini-ferme et partez à l'aventure sur le sentier de raquettes. Et après cette journée bien remplie, réchauffez-vous autour d'un bon repas dans le restaurant convivial où ambiance chaleureuse vous attend. La pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie, c'est aussi votre relais motoneige et grande nouveauté cette année, relais pour Quad, la pourvoirie Auberge La Barrière, une belle façon de vivre l'hiver. Et pour être certain de ne rien manquer, suivez La Barrière sur Facebook.
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvages à partir de 14$. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant de la toute nouvelle Nissan Leaf S Plus 2026 en location 48 mois à partir de seulement 460 $ plus taxes par mois, sans aucun compte initial. Avec sa grande autonomie et son allure à la fois chic et sportive, elle saura vous charmer. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour faire un essai routier. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Salut Claude, salut tout le monde.
Selon Palace Data, Christine Fréchette serait en nette avance sur Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ. Et puis là, on y est allé pas mal large avec ce sondage. C'est la suite d'ailleurs du sondage qui a été présenté.
Premier hier. Volet là, qui parlait de tout parti confondu.
Oui, c'est ça. On est allé, on a ratissé assez large, c'est-à-dire que on a sondé auprès de la population en général. Également, on a visé aussi les électeurs, les gens qui votent pour la CAQ.
Mais si tu as remarqué dans le sondage, les électeurs de la CAQ, parce que c'est eux finalement qui vont élire prochain chef.
Oui, c'est pas au suffrage universel. Là,
ouais. Et le prochain premier ministre désigné ou premier ministre dans ce cas-ci. Et l'échantillon est assez mince. On parle de 152 répondants. Là. Ça, c'est au niveau... Il y a plus de membres que ça à la CAQ pour l'instant. Mais oui, comme tu le disais, il y a plusieurs pans de ce sondage-là. Il y en a qui, tu sais, quand je l'ai consulté, ça m'a pas vraiment surpris parce que je me souviens très bien, au début de la course, Claude, quand on en parle l'après-midi, toi et moi, le commentaire que j'ai fait à quelques reprises, parce que je pense pas que j'ai manqué beaucoup de points de presse, autant de Mme Fréchette que de M. Drainville. Oui. Et je disais ce que je trouve qui est un peu de la vieille politique, c'est que, oui, c'est une course à la chefferie, mais c'est pas parce que c'est une course à la chefferie que tu es obligé de te cracher d'en face. Et je trouvais que Fréchette, à y aller avec des dossiers, à répondre aux questions.
Avec des idées.
Et Drainville, c'était juste de ramener. Madame Fréchette ne s'est pas prononcée.
Des attaques.
Oui, c'est
et
ça.
C'est
et
ça, très en quelque mauvais part, pour l'image.
C'est pas gagnant.
En campagne.
Parce que
non.
Les gens disent arrêtez de vous chicaner puis dites-nous ce que vous allez faire.
Que ce soit une campagne électorale, fédérale, provinciale, municipale, ça paraît pas bien. Et là, à l'intérieur d'un même parti, tu te dis coudonc, eux autres, ils vont avoir à travailler ensemble après
exact,
ça, là.
C'est ça.
Ça marche pas, là.
Comment vont-ils ramasser le reste du parti à la petite cuillère, là?
C'est ça. Et là, les chiffres qu'on a, à la question, est-ce que vous préférez Christine Fréchette ou Bernard Drainville comme prochain chef de la coalition Avenir Québec, là? Bon, il y a différentes versions, comme tu le disais, mais parmi les réponses que j'ai trouvées intéressantes, parce que Drainville est connu, mais Fréchette est méconnue, elle n'est pas connue. Mais par contre, les gens ont plutôt une opinion favorable envers Christine Fréchette. Là, on parle de 26% favorable et Drainville seulement 13% favorable.
Ouais, à moitié moins.
Alors, ouais, c'est ça. Et les gens qui ont une opinion neutre concernant Christine Fréchette, il y en a 39%, ce qui est beaucoup, mais pourquoi opinion neutre? Parce qu'ils la connaissent pas encore. Là,
c'est ça, exactement.
Et dans le cas de Drainville, opinion neutre, 21%. Donc, 62% défavorable à Drainville et 32% défavorable à Christine Fréchette.
On parlait de Palace Data. Dans un sondage avant qui avait été fait par Léger il y a à peu près un mois, 39% des répondants disaient avoir une bonne opinion de Mme Fréchette contre 18 qui avaient plutôt une mauvaise opinion d'elle, toujours. Mm-hmm. Du côté de Drainville, il avait 27% du côté favorable, 46% défavorables. Et on disait, c'était là au moment où ils se picossaient tous les deux concernant le troisième lien.
Ouais.
Alors,
ouais.
Les gens, là, ça démontre que les gens, ils n'embarquent pas là-dedans.
Et l'effet est là, puisque Drainville est seulement rendu à 13% de plutôt favorable. Alors, on le voit tout de suite. Alors, Drainville, ça va pas bien pour cette course à la chefferie. Est-ce qu'il va se rallier à Christine Fréchette malgré son égo? J'ai de la misère à croire à ça, moi.
Ben, moi, c'est une des thèses que j'ai émises à un moment donné, parce que, pourquoi je dis ça, c'est qu'il l'a déjà fait. Rappelle-toi, la chefferie du Parti québécois,
oui.
Il s'était rallié à Pierre-Carl Péladeau.
Oui.
Alors, je me dis, là, avec ça, j'ai pas vu ses réactions, je suis allé rapidement tantôt sur les différents fils de presse.
Mais là, c'est pas pareil parce qu'il est au pouvoir. Je te dirais que c'est pas la même histoire.
Oui, non, ça, t'as raison.
Son égo est encore plus solide.
Mais c'est parce que si tu perds, Hein? En tout cas, ça sent ça pour l'instant, que c'est ce qu'on a sur le nez comme chiffre. Mais tant que tu rentres à l'Assemblée nationale, excusez, là, mais la queue entre les deux jambes.
Est-ce qu'il va
t'emmène pas large?
Et on peut se poser la question, va-t-il retrouver un ministère?
Ben, ça aussi. Est-ce que madame va décider de proroger la session parlementaire? Est-ce qu'elle va décider plutôt de faire un léger remaniement? Comment elle va agir le moment où elle va avoir le pouvoir?
Je pense pas qu'elle va proroger, moi. J'ai pas cette impression-là parce qu'elle a dit qu'il y aura pas d'élection à précipiter, là.
Non. Mais ça, c'est de la stratégie parce que quand tu regardes les sondages, là, ça bouge pour l'instant. Et peut-être que ça serait une stratégie. Elle est élue, elle est désignée première ministre du Québec. Elle se donne 15 jours là, pour arranger ses cartes un peu, proroge la session, déclenche les élections.
Et tenter de sauver les meubles pour
exactement,
la CAQ.
Exactement. Ça pourrait être un scénario. Il y en a plein de scénarios. Là. Je le disais mardi, on va pas manquer de matière, Claude.
Les chiffres bougent, les chiffres parlent aussi. Ça va pas bien pour la CAQ, on l'a vu hier dans le sondage
d'hier. Est-ce que tu me permets... J'ai lu dans ce fameux sondage-là et je me suis pris une note à côté, j'ai marqué Claude, parce que c'est une perle pour toi.
Oui.
La seule exception notable se trouve chez les électeurs conservateurs auprès desquels Bernard Drinville devance légèrement Fléchette.
Oui, oui. Ouais.
Avec ta thèse de dire, ça se pourrait qu'il traverse de l'autre côté.
Oui, oui.
Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à toi tout de suite.
Mais c'est tout à fait normal puisque Bernard Drinville use beaucoup de populisme depuis le début de cette course à la chefferie-là.
Ben, il tarque sur son personnage.
Exactement. Le populisme, ben, ça vient chercher les conservateurs. Les conservateurs aiment le populisme. Mm-hmm. Donc, le scénario que j'avançais, du fait que Drinville se rend au bout de cette course-là et claque la porte de la CAQ pour se ranger du côté des conservateurs d'Éric Duhaime.
Ça demeure plausible.
Ça pourrait peut-être être
on
ça,
est là.
Genre.
De toute façon, on est là. On nous paye pour spéculer.
Oui.
Mais il y a aussi, quand on disait tantôt le sondage qui a été fait, parce qu'il ne faut pas oublier, là, monsieur et madame tout le monde, on peut dire ce qu'on pense de ça, mais ça va se jouer en famille avec la CAQ.
Ah oui.
Alors, c'est-à-dire les gens qui ont lieu carrément.
Les membres de la CAQ.
Et je disais tantôt, c'était assez mince comme échantillon, on parlait de 152 répondants, mais encore là, l'avance de Mme Fléchette dépasse largement la marge d'erreur du sondage. Elle affiche un score net de plus 27 contre moins 31 pour Bernard Drinville. Plus 27, moins 31. Et ça, c'est pas vraiment surprenant, parce que regardez au moment où elle a confirmé qu'elle y allait, et que lui aussi, on fait juste regarder au niveau du caucus, tout simplement, les gens qui se sont rangés derrière elle et ceux qui se sont rangés derrière Bernard Drinville.
En terminant, au niveau de la popularité là, des chefs des différents partis politiques, là, ben, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui trône toujours en première place, suivi de Christine Fréchette, tu vois.
Oui, c'est ça.
Par la suite, on a quoi? Charles Millard. Et on retrouve aussi Éric Duhaime, tout de suite après Charles Millard. Ils suivent de près là, Duhaime et puis Millard.
L'aiguille des sondages va bouger constamment dans les semaines et les mois qui viennent.
Ouais.
Et le 12 avril prochain, ce sera à surveiller. T'as le 1 pour le poisson, puis le 2, ben, c'est celui qui va arriver deuxième.
Merci, Jacques.
Salut.
On sera ensemble toute la semaine prochaine.
Ben oui, j'ai ça, toi, la bonne nouvelle.
Je remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Pierre Jubainville, ainsi que Jacques Plante, ici Claude Fournel. On est en congé. Demain, on va se retrouver lundi à 16h pour une autre édition de l'Anneau d'IRPM. Entre-temps, ben, manquez pas Nicolas Bellemare qui s'amène dans un tout petit moment pour vous présenter le 5 à 7 trad et juste auparavant, la vie dans la Naudière qui vous amène à Notre-Dame-des-Prairies.